cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Jean Guillou, bonjour.
Bonjour.
Alors Jean Guillou, vous êtes, je ne sais pas comment on pourrait vous qualifier, une légende de l'orgue, vous êtes un... Je pense que le mot n'est peut-être pas... Peut-être vous ferait rougir, mais n'est sans doute pas usurpé. Alors, j'allais dire, le prétexte de vous rencontrer aujourd'hui, c'est la publication de nouveaux enregistrements chez Universal, un disque d'improvisation autour de chants napolitains. Il y a un album Liszt également, un album Schumann et Brahms. Mais également, je pense qu'on va un peu parler de plein d'autres choses, puisque l'orgue, en fait, est en vous depuis le plus jeune âge. Je crois même que vous étiez le titulaire de l'orgue d'une église à Angers, dont vous êtes originaire, et vous aviez, je crois, 10-12 ans.
12 ans, oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait le curé d'à côté qui avait appris que je jouais du piano. Alors, tout de suite, il m'a laissé les clés de l'église, des clés qui étaient plus grandes que mon bras, d'ailleurs, pour rentrer. Ça me faisait un peu peur, parce que de rentrer dans une église comme ça, le soir, sombre, monter des escaliers où on sentait le vieux bois, vous savez... c'était déjà une atmosphère étrange quand on entrait dans le ventre de la bête, en somme. C'était...
Est-ce que vous avez eu cette fascination assez rapidement? Parce que c'est vrai, comme vous venez de très bien le décrire, c'est un instrument, il y a une sorte de théâtralité dans sa majesté, oui. Dans le cadre d'une église, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a tout de suite petit qui vous
c'est,
a...
C'est la théâtralité qu'on a accusée, d'ailleurs, de plus en plus dans les églises, parce que c'était... Vous savez qu'au début, ça a été un peu scandaleux quand on a commencé à faire rentrer les orgues dans les églises au XIIe siècle, enfin, au moment où on construisait les grandes cathédrales, parce que c'était un instrument qui était vraiment célèbre comme instrument païen, puisque ça avait été conçu par les Grecs et les Romains utilisaient dans les théâtres en plein air, donc, et ensuite dans les châteaux, etc. Donc c'était... cet orgue, ce qu'on ignore en général, c'est que l'orgue a vécu beaucoup plus longtemps en dehors de l'église que dans l'église. Mais quand il est rentré dans l'église, évidemment, là, on n'a jamais cessé de l'agrandir de plus en plus et de le mettre sur des tribunes très hautes pour donner un côté comme ça spectaculaire et mystique, n'est-ce pas, mais en même temps, ce qui enlevait aussi la présence de l'instrument, parce que c'était tellement éloigné que les timbres se fondaient ensemble dans l'acoustique de l'église. Et c'est ça qui était un peu malsain, parce qu'on a l'habitude d'entendre ces instruments enveloppé, emmailloté dans l'acoustique de cette église, et c'est pas vraiment le son de l'orgue.
Est-ce que c'est justement, au tout début, justement, c'est cette théâtralité, ce côté un peu à part, atypique, tant au niveau sonore qu'au niveau des partitions, au niveau du lieu, qui vous fascinait, qui vous attirait?
Bien, non. Bien sûr, il y avait... C'était un peu... enfin, impressionnant, disons.
C'est un enfant, à ce moment-là, vous avez 12 ans, donc en général, on est peut-être assez intrigué par ce genre de...
Oui, à ce moment-là, je n'ai pas réalisé exactement quelle était la partie, disons, artificielle de l'instrument. Ce n'est qu'après, je me suis rendu compte que... Parce que quand on va à l'intérieur d'un instrument et qu'on entend le jeu, quand on entend les tuyaux à côté... On s'aperçoit que le son est complètement différent. C'est comme si on entend un violoniste qui joue à côté de vous. Là, il y a un son qui est vraiment présent. On entend toutes les harmoniques. Enfin, on entend le son dans toute sa richesse. Et c'est ça que, d'ailleurs, j'ai voulu qu'on retrouve en imaginant un orgue qui soit donc à nouveau au milieu du public, près du public. Et c'est pour ça que j'ai conçu cet orgue.
Voilà, effectivement, parce qu'on va.
Transportable. Et qu'on pourrait donc amener dans les salles de concert ou dans les lieux, enfin tous les lieux où on fait de la musique pour les festivals, et notamment en plein air, par exemple.
C'est là justement, je pense que quand je parlais de légende au début, c'est pas usurpé parce que ceux qui vous connaissent le savent évidemment déjà, mais vous êtes également donc un compositeur, vous êtes lié à la fabrication d'instruments, etc. Vous êtes vraiment. C'est un peu l'orgue à 360 degrés, c'est-à-dire à ce niveau-là, c'est impressionnant. Vous avez été aussi élève de Duriflet, de Messiaen. Oui. Ces instants de votre vie, quand vous y repensez, c'était des rencontres majeures. Qu'est-ce que vous gardez de ces rencontres?
Je garde surtout des exemples. Évidemment, il n'est pas question d'imiter, ce qui était, vous parliez du Duriflet, je garde l'image de cet homme qui était là, qui venait toujours au conservatoire à bicyclette. Alors il habitait près du Panthéon, et alors il descendait, il allait jusqu'à la rue de Rome, parce que le conservatoire était rue de Rome à ce moment-là. Et alors il arrivait là, et puis donc chacun présentait ce qu'il avait écrit. Alors il mettait ça sur le pupitre, et puis il commençait à jouer, et puis alors il commençait à réfléchir, et puis il disait « Non, mais ça ne va pas pour ceci. » Et puis alors il cherchait, ça durait 5 minutes, ça durait 10 minutes, et puis... Et c'est ça, finalement, qui était le plus pédagogique pour moi. C'est parce que c'est pas de dicter, de dire « il faut faire comme ceci ou comme cela ». C'est pas ça, la pédagogie. C'est d'apprendre comment réfléchir, au fond, et quelle est la problématique. Et là, c'était un exemple tout à fait remarquable. Du reste, avec Messiaen, c'est pareil.
Oui, ce que j'ai demandé avec Messiaen, c'était
c'était... Mais lui, c'était un esprit aussi analytique, puisqu'à l'époque, il faisait la classe d'analyse. Il n'avait pas encore la classe de composition. Et c'était à chaque fois une réflexion extrêmement riche sur les œuvres des autres, et puis sur la sienne aussi, bien sûr.
Justement, la composition, vous avez énormément composé pour l'orgue. C'est quelque chose aussi qui est arrivé dans votre parcours assez rapidement. C'était une volonté, vous vous sentiez compositeur, ou c'était aussi une volonté sur un répertoire qui était très précis, d'exploser un peu les barrières de ce répertoire?
Oui, mais au départ, en fait, quand j'ai commencé à jouer au piano et à l'orgue, j'ai tout de suite improvisé. Et improviser, c'est déjà composer d'une certaine manière. Et donc, dès l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à écrire. Et bien sûr, j'ai d'abord écrit pour les instruments, pour le piano et pour l'orgue, les instruments que je pratiquais, mais j'ai bien sûr été aussi passionné par tous les autres instruments et par l'orchestre. Et donc, mon œuvre, au fond, est aussi importante pour l'orchestre ou pour la musique de chambre. Et dans cette œuvre, ce que j'ai voulu faire, c'est aussi mettre l'orgue dans un contexte qui lui était étranger, ou qui était, disons, en tout cas, plus rare, dans la mesure où, si on le joue à l'église, évidemment, on a très peu l'occasion de jouer avec orchestre ou avec d'autres instruments. Et donc, j'ai commencé à écrire pour piano et orgue, piano, orgue et percussion, violon et orgue, violoncelle, etc. Et donc, allier toutes sortes d'instruments. Et j'ai fait ça sur des œuvres, d'ailleurs, que j'appelais... Enfin, une partie d'entre elles que j'appelais colloque, ce qui dit bien donc la confrontation entre ces instruments. Et le dernier étant pour marimba et orgue, ce qui est encore une autre atmosphère, si on peut dire. Thank you.
Est-ce qu'il y avait aussi un côté, c'est quasiment presque politique, c'est-à-dire cette volonté justement de sortir un peu l'orgue de, au niveau de la composition de son carcan, non ?
Politique, si on veut.
Esthétiquement
oui,
politique.
En tout cas, oui, c'est ça. Alors, c'est aussi le désir, parce que. Après tout, il faut dire les choses comme elles sont. À l'époque de mon enfance, l'orgue faisait vraiment partie, et la musique faisait partie des offices religieux. Oh, maintenant, on a écarté la musique et on a écarté l'orgue aussi. Il faut dire que ça n'existe presque plus dans le monde de l'Église. Raison de plus pour faire vivre l'instrument dans le monde normal de la musique. Et c'est plus sain et plus riche aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai écrit, par exemple, 7 concertos pour orgue et orchestre, avec des formations d'orchestre différentes. Et là, donc, j'espère que petit à petit, la place de l'orgue va rentrer dans le monde musical des festivals ou des salles de concert.
Alors donc, l'autre aspect de votre carrière, de votre œuvre, c'est la construction, l'élaboration, la réflexion autour de l'instrument lui-même. Là, pareil, à quel moment c'est intervenu ? À quel moment vous avez éprouvé le besoin d'essayer de voir comment on pouvait repenser l'instrument, fabriquer, qu'est-ce qu'on pouvait... C'était aussi lié à cette problématique de sortir du lieu de
pas tout de suite, non. La première chose, c'est que quand j'ai commencé à jouer des instruments un peu partout... Dans le monde entier de la musique, en somme. Et j'ai découvert aussi des factures d'orgue différentes, des esthétiques différentes. Et puis, à chaque fois, il y avait tel ou tel timbre qui me plaisait particulièrement. Et immédiatement, quand je découvrais ça, j'allais dans l'orgue pour voir comment était construit le tuyau, le prendre les dimensions, etc. Et pour savoir comment on peut obtenir ce timbre. Et donc, petit à petit, la première occasion que j'ai eue, ça a été par la galerie le propriétaire de la galerie de tableaux, Claude Bernard, qui lui-même est un passionné d'orgue et qui avait fait construire une salle de concert dans sa maison de campagne à côté de Tours, qui est une grange et qui a d'ailleurs servi à l'époque de Svetislav Richter pour le festival de la Grange de Mellet. Et là... il a voulu aussi faire construire un orgue. Alors, ça a été mon premier plan d'orgue, enfin, ma première conception d'instrument que j'ai fait construire par un facteur allemand que je connaissais bien, qui était une grande qualité. Et donc, ça a été ma première expérience. Et après ça, j'ai vu ce qu'on pouvait obtenir et comment on pouvait aller plus loin, en somme. Et après ça, j'ai eu l'expérience de l'Alpe d'Huez, là aussi, c'était une autre chose, parce que c'est un curé hollandais qui s'appelait Jaap Rooyten, et qui, tout d'un coup, est venu me voir à Paris et m'a dit « Voilà, j'ai fait construire une église ». Et en effet, il avait fait construire une très belle église qui a l'air d'une salle de concert, comme ça, un peu circulaire. Et il m'a dit, je voudrais avoir un orgue, pouvez-vous faire les plans ? Alors je suis allé là-bas, c'est à 2000 mètres d'altitude, et avec l'architecte, et puis j'ai fait le plan de cet orgue, qui a d'ailleurs la forme d'une main, ce qui était déjà assez particulier, ce qui fait que la photo de cet orgue a été publiée dans toutes les revues spécialisées du monde. Et puis, après ça, alors j'ai eu d'autres occasions à Bruxelles, à Zurich, dans la salle de concert, la Tonhalle à Zurich, où je donnais des cours, d'ailleurs, tous les ans, là. Et puis aussi à Tenerife, d'ailleurs, dans une nouvelle salle construite par Calatrava. Donc, ce qui a été aussi intéressant de travailler avec un architecte, et c'est là où j'ai eu l'occasion de faire construire un orgue, alors tout à fait qui était un peu déjà l'approche de mon orgue à structure variable, parce que c'est un orgue qui est divisé en 8 parties, donc il y a 8 buffets qui sont disposés autour du public. Alors, Et puis, dernièrement, là maintenant, j'ai fait les plans pour un orgue qui va être construit à Rome, dans l'église des Portugais, et qui sera terminé au mois d'octobre, à peu près.
Mais est-ce qu'à chaque fois, c'est-à-dire que c'est une rencontre avec un lieu, avec des gens, vous parlez de collaboration avec des artistes, ou est-ce qu'il y a au fond de vous-même une sorte de quête quelconque pour une sonorité, pour une...
Oui, alors justement, d'abord, mon but, c'est que l'instrument s'approche de plus en plus du public, en somme.
Quel que soit le projet, pour tous les projets, ça a toujours été le...
Alors, selon les possibilités, bien sûr, là, selon... Là où doit être construit l'instrument, l'acoustique du lieu, etc. Alors, il faut que j'adapte mes idées, en quelque sorte, jusqu'au jour où je pourrais faire construire cet orgue que j'appelle l'orgue à structure variable et qui, lui, sera un orgue transportable, mais très riche, puisque divisé en 15 buffets et que l'on pourra placer donc au milieu du public... dans n'importe quelle salle de concert ou en plein air aussi bien. Et alors ça, c'est le but idéal. Ça fait déjà 25 ans que j'essaie de faire construire cet orgue. Malheureusement, en Europe, c'est très difficile.
Financièrement, est-ce que voilà ce que j'allais dire, que
non, pas financièrement, parce qu'on fait tous les jours, on fait construire des instruments qui coûtent plus cher que ne coûterait mon orgue à structure variable. Mais non, c'est l'idée nouvelle, en somme, qu'il est très difficile de défendre, parce que, évidemment, les gens qui... ne savent pas exactement ce que c'est qu'un orgue, ne peuvent pas imaginer comment ça se présenterait et n'osent pas se jeter dans cette expérience, en somme.
Vous avez, et vous continuez à énormément voyager, vous avez aux quatre coins du monde, je dirais. Ouais. Comment l'instrument est perçu différemment en fonction des lieux? Est-ce qu'en fonction des cultures, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France, en Portugal?
C'est très curieux. En Europe, on peut dire qu'au fond, maintenant, tout le monde voyage. Tout le monde a entendu ce qu'étaient les instruments en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en France. Et donc, de plus en plus, il y a une... Les idées, disons, s'agglomèrent et se mélangent et se cultivent ensemble. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui il y a l'orgue allemand, l'orgue français. Non. Et d'ailleurs, mon orgue à moi, je ne sais pas ce qu'il est. Il n'est ni français ni allemand. C'est un instrument de musique, c'est tout. Mais alors c'est très curieux parce que, par exemple, au Japon, après la guerre, enfin 10 ans, oui, ou 15 ans après la guerre, on a commencé à construire. J'étais invité la première fois pour donner un cours pendant 8 jours dans une université, l'université Musashino à Tokyo. Et c'était le premier orgue qui avait été construit dans une très grande salle de concert, du reste par un facteur allemand, du reste par ce même facteur qui construirait mon orgue à structure variable si on le faisait construire. Et là, bien sûr, ils ont voulu en fait imiter ce qu'on fait en Europe, enfin ce qu'on fait notamment en Allemagne, parce que c'est en Allemagne où il y a le plus de salles de concert avec des orgues. Et là, ils ont fait la même chose. Et d'ailleurs, ils ont construit des salles de concert aussi du même type. Et... Mais ce qui est quand même extraordinaire de constater, c'est qu'à Paris, il n'y a plus une seule salle de concert avec un orgue. Et à Tokyo, il y a au minimum 5 grandes salles de concert avec, dans chaque salle, un grand orgue. Jusqu'à des salles de 4000 places. Et c'est quand même très étrange.
Alors, quel lobbying il faudrait faire pour changer ça en France ?
Je ne sais pas, tout simplement, c'est parce que la musique ne règne pas en France. On a eu... Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au Théâtre des Champs-Élysées, il y avait un orgue. Au Salle Gaveau, il y avait un orgue. Salle Pleyel, il y avait un orgue que j'avais joué à l'époque, du reste, et qui était superbe. Palais de Chaillot, il y avait un orgue où là, on n'a pas seulement détruit l'orgue, mais détruit la salle de concert, qui était la plus belle de Paris. Et voilà. Et puis le dernier, qui était l'orgue de la radio, là, qu'on a enlevé parce qu'on fait une nouvelle salle qui, certainement, sera meilleure que l'ancienne. Mais enfin, donc, il n'y a pas une seule salle de concert. Le seul lieu où on puisse jouer à Paris avec orchestre, c'est l'église Saint-Eustache, où je suis organiste. Tout simplement parce que quand je suis arrivé à Saint-Eustache, j'ai demandé tout de suite que l'on fasse construire une console en bas, c'est-à-dire les claviers, en bas, qui commande l'orgue de la tribune. Si bien qu'on peut jouer de la tribune et on peut jouer en bas. Et donc, si on joue avec orchestre, on joue en bas. Ou pour tous les concerts, du reste, on joue en bas parce qu'au moins, on voit l'organiste qui joue. Il y a un contact avec le public. Et c'est toute autre chose.
Alors justement, Saint-Eustache, c'est une histoire d'amour. C'est quelque chose, c'est depuis le milieu des années 60, je crois, au début des années 60.
En 63, je suis
63,
arrivé, oui.
C'est... Quel rapport vous entretenez justement avec ce lieu qui, déjà, lui-même... assez magique, avec l'instrument que vous avez...
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose à part pour vous ? C'est juste une...
C'est très à part, d'autant que c'était un rapport très conflictuel. Tout simplement parce que, quand je suis arrivé à Saint-Eustache, l'orgue était déjà en reconstruction, parce que, avant mon arrivée, on avait décidé de... faire refaire l'orgue, c'était la ville de Paris donc qui avait décidé, par un facteur d'orgue que je n'appréciais pas du tout d'ailleurs, et donc qui a construit l'orgue, et qui l'a construit si mal que lorsqu'il a été, donc il a été terminé en 68, je l'ai inauguré en 68, et en 75, il n'était plus jouable du tout. Donc je me suis trouvé sans instrument entre 1975 et 1989. Parce que, il a fallu discuter donc, à la ville de Paris et pour, jusqu'au moment où on a décidé, finalement, pour une nouvelle construction, où là, ça a été à nouveau... on avait à choisir entre des grandes maisons, justement, allemandes ou autrichiennes, et puis une maison hollandaise, qui était nouvelle, d'ailleurs... qui avait posé sa candidature aussi. Et c'est la maison hollandaise qu'on a prise, tout simplement parce qu'elle était la moins chère, et non pas pour des raisons esthétiques du tout. Enfin, voilà. Donc, les choses se posent comme ça. Et donc, c'était une atmosphère assez particulière, il faut dire.
Mais avec le temps, est-ce que ça reste un peu votre...
Mais malgré tout, j'ai pu m'exprimer. Ouais. Et effectivement, tant qu'il y a eu un orgue, j'ai fait mes premiers enregistrements pour la maison Philips à l'époque, que j'ai fait en partie du reste à Berlin, parce que je choisissais des instruments et puis on m'avait permis à ce moment-là de jouer sur des instruments qui me plaisaient particulièrement. Et là aussi, maintenant, donc, c'est un instrument que j'ai choisi avec les 3 nouveaux disques.
Mmh.
napolitain, entre guillemets. Enfin,
c'est ça.
Alors, quelle est son histoire à lui, c'est-à-dire, parce que
vous alors, avez, là, c'est vous là aussi, avait... c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Vous savez, il n'y a que dans le monde de l'orgue où il y a des histoires comme ça. Voilà, il faut commencer. Au début, il y avait le conservatoire de Naples, qui est un conservatoire du XVIIIe siècle, qui a été installé dans un ancien monastère du XVIIIe siècle. Et donc, c'est superbe comme local. Et puis, il y avait aussi une salle de concert. Et puis, il y a eu le tremblement de terre de Naples qui a détruit cette salle de concert. Alors, on a fait reconstruire une nouvelle salle. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé donc, de faire les plans pour un nouvel orgue dans cette salle de concert. Alors, j'ai fait les plans. On m'avait demandé que ce soit tel facteur italien, enfin, la maison Tamburini, qui devait faire l'orgue. Et donc, en effet, ils ont construit l'orgue très bien, comme je le désirais. Et puis, lorsqu'il a été terminé, tout d'un coup, on s'est aperçu que la salle n'était pas construite dans les normes pour la sécurité. Alors, donc, on n'a pas pu inaugurer l'orgue à ce moment-là. Et alors, il a fallu attendre qu'on fasse les travaux. On a fait les travaux, mais entre-temps, le directeur du conservatoire a changé. Et puis, le nouveau directeur, lui, n'était pas du tout intéressé par l'orgue. Donc, il n'y a pas eu d'inauguration. Et puis, comme ça, ça a continué de directeur en directeur. Il y avait même une directrice qui avait voulu vendre l'orgue parce qu'elle trouvait qu'il prenait beaucoup trop de place dans cette salle de concert.
Il faut toujours lutter, en fait, avec l'orgue. Il y a toujours à chaque fois...
Ah oui. Et alors, enfin, elles ne l'ont pas vendu quand même. Et puis... Finalement, est arrivé l'année dernière un nouveau directeur qui, lui, a découvert l'orgue, a dit « Mais comment il faut utiliser cet instrument ?» etc. Mais alors, comme il n'avait pas servi pendant 25 ans, parce que ça a duré 25 ans, donc il fallait le restaurer parce que c'était complètement poussiéré. Et alors, le facteur qu'il avait construit était mort entre-temps, donc on a choisi un nouveau facteur qu'il a très bien... restauré. Et puis, je l'ai inauguré donc en 2007. J'ai donné un concert là. Et puis, c'est après ça donc j'ai pensé faire ces nouveaux enregistrements prévus par la Maison Philips sur cet orgue, puisque l'orgue de Saint-Eustache n'est plus en état pour pouvoir faire des enregistrements. Donc... En fait, j'ai pu faire ces enregistrements sur cet orgue.
Alors justement, est-ce que vous choisissez le programme que vous désirez enregistrer en fonction de tel instrument pour tel lieu ? C'est-à-dire, si on prend l'exemple de ces trois albums qui viennent de sortir, est-ce que vous... ils sont quand même très rattachés à l'instrument lui-même ?
Oui et non. C'est-à-dire qu'au départ, là, ces programmes, donc avec toute l'œuvre de Schumann... et les grandes œuvres de Liszt, sont deux programmes que je voulais absolument faire depuis 3-4 ans. Enfin,
quel que soit l'orgue, en fait.
Oui.
D'accord.
Et puis finalement, en pensant à l'orgue de Naples, je me suis dit qu'au fond, ces œuvres iraient très bien sur cet orgue. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais j'aurais très bien pu enregistrer... beaucoup d'autres choses très différentes, beaucoup d'autres œuvres très différentes sur cet orgue.
Alors l'un de ces trois albums.
D'autant plus que, bien sûr, Schumann et Liszt peuvent être considérés comme des œuvres de même caractère, encore que Liszt demande autre chose que Schumann. Mais enfin, mais d'autre part, le disque d'improvisation, lui, c'est vraiment la musique actuelle, donc c'est tout à fait autre chose. Ah, et là, j'utilise l'orgue tout à fait différemment.
Et en plus, là, cette fois-ci, il a quand même un lien avec la ville, avec Naples, puisque certaines de ses improvisations partent de...
Oui.
Quel rapport, justement, vous entretenez avec cette ville, qui est quand même à part en Italie.
Ah oui, absolument.
D'ailleurs, vous mettez dans le livret une phrase extraite d'un... livre de
Dominique Fernandez.
Vous savez, Régis Debray qui avait écrit son Contre-Venise, mais c'était Contre-Venise pour Naples. Enfin, il y a toujours eu certaines personnes qui ont un attachement particulier à cette ville qui est assez atypique quand même dans le pays.
Oui, qui est totalement différente des autres villes parce que on sent qu'elle n'a pas suivi ensemble l'évolution, entre guillemets, du progrès, entre guillemets, suivi par toutes les autres villes. Et là, c'est une vie qui est en effet tout à fait à part. Quand je vais là au conservatoire, je vais tous les jours dans un petit café qui est à côté, où on prend un café avec peperoncino, avec le paprika, avec du paprika. C'est extraordinaire. Ça n'est qu'à Naples où vous pouvez trouver ça, n'est-ce pas? Mais enfin, non, mais il y a une vie. À côté de ça, c'est la ville où j'ai vu le plus de librairies, par exemple, dans les mêmes rues, enfin, les unes à côté des autres. C'est vraiment... Il y a une vie intellectuelle et artistique. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et justement, j'ai pensé, bien sûr, Dominique Fernandez, après avoir lu ses ouvrages, et c'est pourquoi, du reste, j'étais entraîné à aller voir le Caravage qui est exposé dans une banque. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, au moment où j'ai décidé de faire ces improvisations, de dédier une des improvisations à Caravage aussi.
Enregistrer l'aspect technique, l'aspect sonore, de la prise de son, tout ça, sont des choses qui vous tiennent à cœur.
Ah oui.
Le résultat final,
parce que oui. Ça, c'est une chose. Dès les premiers disques, d'ailleurs, que j'ai fait, je me souviens à l'époque avec les techniciens de la maison Philips, je demandais, c'est-à-dire une prise de son qui était différente de ce qu'on avait l'habitude de faire, où on prenait une ambiance toujours et avec beaucoup de réverbération, etc. Et moi, j'ai toujours demandé que l'on s'approche des jeux, des tuyaux, en somme, le plus possible, pour avoir pour presque sentir, entendre l'attaque des tuyaux. Et c'est ça, pour avoir une présence des timbres, en somme. Et j'espère que on peut se rendre compte de ça. Et donc, ce n'est pas une prise de son d'atmosphère, mais c'est une prise de son de la vie de l'instrument, en somme.
Alors, parce que vous avez autant de facettes qu'il y a de tuyaux, je pense, aux orgues. Il y a un autre encore aspect au niveau de l'instrument, c'est le double piano. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce double piano c'est lié à une rencontre avec un facteur italien, je crois.
C'est ça. Mais alors, il faut dire ceci en rapport avec Schumann et Liszt, justement, c'est que au XIXe siècle, au début de l'apparition des pianos, on a tout de suite construit des pianos avec pédalier. Le clavier de pédalier et le clavier des pieds qu'on utilise à l'orgue. Parce que, au fond, tous les pianistes jouaient aussi, étaient capables de jouer de l'orgue. Mendelssohn donnait des concerts d'orgue aussi. Et donc, Schumann avait été très séduit par cet instrument. C'est pourquoi il a écrit toute son œuvre pour piano-pédalier ou orgue, ajoute-t-il. Mais en fait, il n'avait pas tellement de contact avec l'orgue. Et au fond, lui était pianiste avant tout. Et son œuvre est pensée vraiment pour le piano. C'est pourquoi, quand l'organiste doit jouer ces œuvres-là, il doit faire une espèce de transcription, en somme. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs une édition nouvelle de ces œuvres pour leur donner une interprétation différente. Mais là, avec donc, c'est en continuant cette tradition du piano pédalier, il y a ce facteur italien Borgato qui a eu l'idée de construire lui un double piano, mais alors différemment de ce qu'on faisait, parce que à l'époque c'était la mécanique du pédalier qui allait retrouver la mécanique du clavier pour faire entendre le piano, en somme, le son du piano. Mais lui, il a construit un grand piano de concert qui comporte les cordes du pédalier et un deuxième grand piano de concert, donc, qui est au-dessus.
Ce qu'il faut expliquer, c'est voilà, on peut le voir d'ailleurs sur votre site internet. On voit une photo, on voit très bien, on a l'impression effectivement d'un
piano de concert
superposé.
C'est ça. Alors, c'est très spectaculaire, évidemment. Et alors, j'ai fait l'inauguration de ce piano au Théâtre Olympique de Vicence, qui est un lieu absolument prodigieux où je n'avais jamais pensé que j'aurais l'occasion de jouer dans ce lieu-là, parce que ça date du XVIe siècle. C'est un théâtre de l'architecte Palladio. C'est comme une place grecque avec ses colonnades derrière le public. Et puis donc, on avait mis le piano sur la scène. Donc, j'ai pu faire l'inauguration. Et la deuxième inauguration a été faite dans un lieu aussi prestigieux qui est le théâtre, l'Opéra Royal de Versailles. Où là aussi... il y a tout un décor. Mais oui, c'est un instrument donc où on peut jouer toutes les œuvres qui avaient été écrites à l'époque, aussi bien par Schumann ou par Liszt, etc., pour le piano pédalier ou l'orgue. Et là, j'ai voulu, en somme, retrouver le jeu, parce qu'il faut être... J'ai toujours joué le piano, j'ai donné des concerts de piano aussi, très souvent piano à moitié piano, à moitié à l'orgue, ou alors ensemble, piano et orgue, etc. Et là, donc, c'est en tant que pianiste que j'ai joué cet instrument, parce que même le pédalier donc, a un toucher sensible, exactement comme les doigts. Et donc, c'est un jeu qui est différent du jeu normal de l'orgue, en somme. Et ce qui était très intéressant pour moi.
Quelle part prend le chapitre de la transmission de tout ça, c'est-à-dire l'enseignement? Vous êtes, que ça soit tant au niveau du répertoire, au niveau de la composition, au niveau de la fabrication des instruments, de la facture, etc. Est-ce que pour vous, on évoquait tout à l'heure le fait qu'encore... À Paris, une ville comme Paris n'a plus vraiment d'orgue, etc. Est-ce qu'il y a un côté justement de devoir transmettre, de devoir... je ne vais pas reprendre le mot de politique comme tout à l'heure, mais presque... Est-ce que vous avez une mission un peu par rapport à ça? Comment vous voyez tout cet aspect-là de...
Oui, alors ça, à vrai dire, dans la première partie de ma carrière, je n'avais jamais pensé faire de l'enseignement. Enfin, je n'ai jamais cherché à le faire. Et puis tout d'un coup, c'était un mécène de Zurich qui m'a appelé et qui m'a dit « Est-ce que vous pourriez venir pour discuter d'une proposition que je veux vous faire ?» Et en réalité, donc c'était en 1970, c'était en 69, il me dit, voilà, avec Géza Anda, qui était le pianiste hongrois, qui habitait Zurich aussi. Donc, ensemble, ils ont créé ce cours d'interprétation. Alors, donc, Géza Anda donnant les cours de piano. Il y avait Milstein qui faisait le violon et Piatigorsky pour le violoncelle. Et donc, il me demande si je... veut aussi faire les cours d'orgue. Alors, moi, je lui ai dit, vous savez, moi, je ne crois pas avoir des qualités particulières de pédagogue, je ne sais pas. Mais enfin, essayez quand même. Alors, bon, c'est comme ça que j'ai fait la première année. Et en fait, j'ai été pris par le jeu, effectivement, parce que je me suis tout de suite aperçu que en enseignant, on apprend beaucoup.
Est-ce que j'allais vous demander, est-ce que même l'échange avec, les élèves avec,
Oui, c'est pas tellement l'échange, c'est le fait de... Oui, l'échange, enfin, ça vous montre d'abord qu'on peut obtenir la même chose musicalement avec des moyens différents. Des moyens même physiques. Et parce que quelqu'un qui vous dit « il faut jouer comme ça », c'est totalement faux parce qu'on peut le faire différemment. Mais il faut savoir ce qu'on veut obtenir. Et c'est ça la question. Et au fond, avant tout, c'est l'analyse des œuvres. Et donc, on est forcé d'expliquer les choses. Et c'est là où on apprend beaucoup parce qu'au fond, avant ça, on a travaillé soi-même. Et puis... on se pose des questions, mais sans les formuler vraiment. Et là, il faut tout formuler. Et c'est là où on apprend beaucoup, en somme. Et je dois dire, ça m'a aussi... Ça a été très enrichissant pour moi, parce que donc j'avais des étudiants qui venaient d'un peu partout, le Corée, du Japon, de Russie, etc. Et... Donc j'ai eu des contacts entre 1970 et 2005 avec toute la jeunesse organistique du monde. Et ça a été merveilleux pour moi. Et j'ai vu aussi une autre chose merveilleuse, c'est que les meilleurs étudiants sont toujours restés les meilleurs amis entre eux. Et je voyais toujours après, même bien des années après, les mêmes invitant les autres. Et c'était toujours les plus brillants d'entre eux. C'est très rassurant aussi.
En termes de répertoire de compositeurs, vous avez enregistré compositeurs très différents les uns des autres. Mais est-ce qu'au fond de vous-même, vous avez quand même, par rapport aux œuvres liées à l'orgue, des compositeurs de prédilection, malgré tout ?
Oui, évidemment. Il y a d'abord Jean-Sébastien Bach, bien sûr, qui est... Capital. D'ailleurs, j'ai fait aussi une intégrale de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Et je crois qu'il est différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et puis, bien sûr, je suis très attiré par aussi les œuvres romantiques et particulièrement Liszt, mais pas seulement, enfin, Liszt ou Schumann, mais... Par exemple, il y a un compositeur que j'ai beaucoup joué, que je continue à jouer beaucoup, et qui est un nom presque inconnu en France, c'est Julius Reupke. Et Reupke, qui était un élève de Liszt, et ça, c'est un cas extraordinaire, parce que quand il est mort en 1958, c'est le 200e anniversaire, cette année, 250 de la mort de Reupke. Il est mort à l'âge de 24 ans. Bien sûr, comme on mourrait à l'époque d'une fièvre ou de tuberculose, enfin, je ne sais pas exactement. Et donc, il avait travaillé avec Liszt à Weimar, et il nous a laissé deux œuvres, uniquement deux œuvres, de entre 25 et 30 minutes chacune, une sonate pour piano et une sonate pour orgue. Et toutes les deux que l'on pourrait, non pas comparer, mais enfin le mettre en, à côté de la grande sonate pour piano de Liszt, en somme. Bien que ce soit différent de style, bien sûr, on voit qu'il était inspiré par Liszt, mais aussi par Wagner, du reste. Et même le Wagner d'après les années 58, justement, c'est ça qui est extraordinaire, comme s'il il avait déjà le présumé de ce que serait Tristan ou Parsifal. Et on trouve ça dans ces deux sonates. Et je crois, été le seul à jouer les deux sonates, enfin celle pour piano et celle pour orgue. Et celle pour orgue, je la joue encore très souvent parce que à chaque fois, je crois qu'on est très impressionné par cette fresque extraordinaire.
Alors, quels sont, pour conclure, les projets? Vous nous avez déjà évoqué certains d'entre eux. Vous avez des projets, des envies d'enregistrement, des envies de...
Alors, des projets, par exemple, pour l'enregistrement, une de mes dernières œuvres qui a été écrite pour 9 orgues, 9 organistes et percussions, qu'on a donné à Munich la première fois et ensuite à Saint-Eustache et qu'on va redonner à Rome au mois de novembre. Ça, je voudrais bien que ce soit aussi enregistré. Et puis de aussi, parce que j'ai écrit 7 concertos pour orgue et orchestre, et là, ça serait une chose très importante pour moi de pouvoir enregistrer au moins un de ces concertos, ou même les 7 concertos, parce que je crois qu'il y a, au fond, relativement peu d'œuvres écrites pour orgue et orchestre.
Et en termes de... facture d'instrument, le projet de dans vos envies, le projet de l'orgue modulable. Donc.
Oui, alors bien sûr, il y a ce dernier orgue qui va être construit à Rome, mais bien sûr il y a cet orgue à structure variable, donc cet orgue transportable et qui lui est l'espoir le plus important de ma carrière, parce que c'est pas seulement pour moi, mais je suis convaincu que c'est un instrument qui changerait complètement le panorama des organistes dans l'avenir, parce que enfin il pourrait se produire d'abord partout où on donne des concerts et dans tous les festivals, et puis à avoir un instrument qu'il pourrait suivre dans toutes les villes d'Europe et d'ailleurs. Et parce que jusqu'à maintenant, jouer dans les églises, c'est toujours problématique. Et puis, les organisateurs ne s'intéressent pas tellement à organiser des concerts dans les églises, ce qu'on se comprend très bien.
Donc, on vous souhaite, de réaliser ce rêve, ce presque rêve. Je ne sais pas comment on
peut
le baptiser.
J'espère que je serai ravi.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci. Thank you.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.